Donc voilà, donc ce soir, en fait, on va prendre la suite, hein, donc de la semaine dernière où on avait vu ce que c'était que l'universalisme évangélique. Et aujourd'hui, ça va être, ce soir, ça va être la réponse un petit peu à ce qu'on a vu la dernière fois. En tout cas, une des réponses qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle la doctrine des peines éternelles. Alors, elle fait partie de notre confession de foi aussi. Et on va voir ce que c'est et on verra si c'est biblique ou non. Hein. Voilà. Donc la semaine dernière, effectivement, j'avais essayé de vous présenter de façon honnête aussi et respectueuse ce thème de l'universalisme et la version évangélique de cela. Et je pense que le fait de vraiment savoir ce que d'autres pensent et leurs arguments, ça nous rend aussi plus humbles dans notre propre doctrine. On n'est pas, tout le monde ne pense pas comme nous, il y en a qui pensent différemment. Et c'est bon, voilà, de temps en temps, de pouvoir voilà, aborder de façon très pacifique même des points avec lesquels on n'est pas d'accord. Et j'avais même pu soulever que l'universalisme, dans sa version évangélique, était respectueux de l'Écriture. Je vous rappelle que Augustin le disait hein, dans ses mots de l'époque, alors que lui croyait en l'existence des peines éternelles, il écrit « En fait, il y en a vraiment beaucoup qui ne croient pas à de telles choses, comme le tourment éternel, sans qu'ils aillent contre l'Écriture divine. » Alors ce soir, on ne va pas parler de la doctrine forcément la plus heureuse hein, de notre confession de foi, mais néanmoins, je pense que c'est bien d'en parler. Donc la doctrine des peines éternelles, ou alors la doctrine du châtiment éternel, et c'est synonyme. Et on pourrait qualifier cette position de traditionnelle, car elle a été soutenue dès les premiers siècles par des théologiens tels que Tertullien, et aussi parce que ça a été la position dominante de l'Église jusqu'au XIXe siècle, et dans les milieux évangéliques, en très grande majorité, jusqu'à aujourd'hui. C'est d'ailleurs dès le VIe siècle, le Cinquième Concile œcuménique, qui avait qualifié, déjà en 553, l'universalisme d'hérétique. Et donc, comme je le disais, en tant qu'évangélique de l'Association Baptiste, la doctrine des peines éternelles fait partie de notre confession de foi, et nous, ici à l'église de Mulhouse, on a fait le choix de reprendre comme confession de foi de l'église locale celle de l'association baptiste. Donc tout membre de l'ABN à un moment donné a pu exprimer au moment de devenir membre son accord avec le contenu de cette confession de foi. Dans la Bible, la personne qui parle le plus de l'enfer, c'est Jésus. Et on ne peut pas lui reprocher d'avoir manqué d'amour ou de compassion pour son prochain. Ça, c'est un reproche qu'on ne peut pas lui faire. Et pourtant, il parle à de nombreuses reprises de la condamnation éternelle, souvent en utilisant des images. Donc on va lire un certain nombre de textes et on va voir que Jésus a enseigné toujours la même chose sur ce point-là. Alors les évangiles nous parlent, dans les images utilisées, nous parle d'un feu ou d'une fournaise pour parler du châtiment éternel. Alors, après la parabole du bon grain et de l'ivraie, hein, en Matthieu 13, versets 40 à 42, je vous lis simplement ces versets maintenant, Matthieu 13, versets 40 à 42, tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc cette image voilà, du feu, de la fournaise. Lorsque Jésus enseigne sur la fin des temps, Matthieu 25, verset 41, encore cette image du feu. Hein. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, on en parlait juste avant, hors enregistrement, hein, « Éloignez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Jésus n'est pas le seul non plus à utiliser cette image du feu. Cette image du feu est reprise aussi dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 14, verset 11. « La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. » Ou encore en Apocalypse 20, dans ce texte qui parle du jugement dernier. « La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » L'étang de feu, c'est la seconde mort. Alors voilà, déjà rien qu'avec ces passages, déjà on a l'image du feu, on voit que c'est Jésus qui a cette image du feu, qui était alors le feu comme image, c'est l'image de beaucoup de choses dans la Bible. Ça peut même être l'image de quelque chose qui purifie, mais c'est souvent associé quand même au jugement. Alors, et là, voilà, pour le jugement dernier, pour la condamnation, c'est cette image que Jésus reprend. Alors les universalistes, qu'on a vu un petit peu la semaine dernière, ne nient pas bien sûr l'existence de ces passages, mais vont les interpréter différemment. Ils vont parler du feu comme un jugement, mais un jugement qui purifie. On avait parlé de ça, la justice de Dieu est-elle rétributive ou restauratrice? Est-ce qu'il y a, en tout cas dans le monde après la mort, un avenir encore possible? C'était vraiment la grande question. Certains avancent même que le soufre, qui est des fois associé au feu, était connu à l'époque, dans certains textes, pour avoir aussi des vertus purificatrices. Donc on a cette image en tout cas du feu, et on a une autre image pour parler du châtiment éternel, c'est celle de l'obscurité ou des ténèbres. Donc voilà encore une autre image. Donc Matthieu 8, verset 12. « Mais à ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc là, une obscurité ou des ténèbres, Matthieu 22, verset 13, dit encore, « Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Vous avez remarqué la mention aussi associée aux ténèbres, des pleurs et des grincements de dents, qu'on trouve encore dans d'autres textes, on ne va pas tout lire maintenant, mais Marc 24, 51, Luc 13, 28. Or, les pleurs renvoient très probablement à... les pleurs sont un moyen d'exprimer une souffrance. Bien sûr, il y a aussi des pleurs de joie, mais évidemment, on ne parle pas de ça ici. C'est l'expression d'une souffrance. D'ailleurs, si la souffrance n'est pas mentionnée très clairement, elle l'est dans la parabole de Luc 16 avec le riche qui meurt, qui se retrouve justement dans une flamme et qui dit « je souffre ». Voilà.
Le feu de la gêne,
tout à fait, ouais, ouais, exactement. On va justement voir ce mot, la GN aussi, dans la bouche de Jésus, à plusieurs reprises. Et effectivement, il y avait... donc on va voir ce que c'est exactement que la GN. Les pleurs, alors expression de la souffrance, expression d'un grand désespoir aussi, peut-être même d'un regret. On peut pleurer de regret, un regret profond. Pierre, par exemple, après avoir renié Jésus, a pleuré, et je crois que le texte dit qu'il a même pleuré amèrement. Donc un regret profond qui, eh bien, dans le temps de la patience de Dieu, peut se transformer en repentance, mais qui, dans la dimension éternelle, n'aurait pas d'avenir. Ce seraient des regrets sans fin. C'est terrible d'ailleurs d'avoir des regrets. Peut-être vous pensez à quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous avez dit, et vous le regrettez, c'est une souffrance. Et même des fois, si on sait que la personne nous a pardonné, on le regrette quand même encore. Et si on se dit, mais si je pouvais venir en arrière, hein?
Dans les cimetières,
mais on ne peut pas, hein? Ce qui est passé est passé. Ce qu'on a fait, on l'a fait.
Dans les cimetières, il y a des petits trucs, regrets éternels. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, sur des tombes, il y a des petites plaquettes.
Ok.
Regret éternel.
Parce qu'on regrette la personne.
Parce qu'on regrette la personne, on la regrettera toujours, peut-être, je ne sais pas.
Ouais. C'est comme ça que je le comprends.
D'accord.
Ouais, moi aussi, c'est comme ça que je le comprendrais. Mais... Et je n'avais jamais vu. Ouais. Les damnés, ceux qui sont condamnés, ont choisi une vie sans la plénitude de Dieu. Et c'est ce qu'ils regretteront pour l'éternité. Ils regretteront cela sans pouvoir changer d'état. On s'en aperçoit d'ailleurs dans cette parabole de Luc 16. Hein. Je le faisais déjà remarquer la semaine dernière. Celui qui souffre dans la flamme, apparemment, a compris qu'il ne pouvait pas se trouver dans le sein d'Abraham. Il demande par contre que Lazare dans le sein d'Abraham lui mette de l'eau, etc., pour le rafraîchir. Et puis il dit, je ne peux pas, il y a ce fossé qui nous sépare. Par contre, il s'inquiète pour ceux qui sont encore sur la terre, parce qu'il avait plusieurs frères, je crois, nous dit le texte, 5 frères. Et il voudrait tellement que ses frères puissent... se tourner vers Dieu.
Ne
viennent
pas dans ce lieu de tourment.
Comme lui, dans ce lieu de tourment, se tourne vers Dieu, en fait. Et, ouais. C.S. Lewis disait qu'il y a 2 catégories de personnes, ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite, et ceux à qui Dieu dit que ta volonté soit faite. L'enfer, c'est en fait quoi ? Disons, une possibilité de comprendre, c'est ne pas pouvoir profiter de la plénitude de Dieu, être sans cesse confronté à ce qu'a été notre vie sans jamais pouvoir être pardonné par Dieu. Donc c'est ce qu'on voit, je pense, un petit peu dans cette parabole de Luc 16. On voit un regret, ah mais si j'avais su, et puis ah il faudrait que du coup ceux qui sont vivants sachent pour qu'ils soient de l'autre côté de l'abîme, dans le sein d'Abraham. Alors, selon plusieurs textes bibliques aussi, la peine, même si elle est éternelle pour tous, le niveau, si on peut dire comme ça, ou les gradations, des fois on parle de gradation dans les peines ne sont pas les mêmes pour tous. Si on lit par exemple Luc... chapitre 12, versets 47 et 48. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. On a d'autres textes encore comme ça, je ne vais pas tous les lire, Matthieu 11, versets 22 à 24, Matthieu 10, 15, et j'en relis encore un dans Luc 20, verset 47, qui dit « Il dépouille les veuves de leurs biens, tout en faisant pour l'apparence de longues prières, parlant des chefs religieux, ils seront jugés plus sévèrement. » Et il est même question des enseignants aussi, hein, dans un texte, des enseignants dans l'Église qui seront aussi jugés plus sévèrement. Donc il y a apparemment peut-être une gradation aussi dans les jugements. Dieu tient compte de nos actes en fonction de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a eu, des responsabilités qui nous ont été confiées. Et on sera jugé avec cette finesse-là.
Mais ça s'applique à l'enfer, ça ?
Alors, en tout cas, pour l'histoire des coups de bâton, probablement que oui. Celui qui, connaissant, ayant eu peut-être accès même à l'Évangile...
Mais quelqu'un qui est sauvé, enfin, qui est en théorie sauvé, il y a quand même un jugement.
Oui.
Où on est mis en face de ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait, même si on est sauvé.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que ça s'applique à l'enfer, ou est-ce que ça veut dire que...
Ok. Oui, bonne question. Alors en fait, c'est des fois une façon qu'on a de répondre à l'argument
L'enfer, c'est trop méchant pour
que
Dieu, quoi,
l'enfer
ça.
serait injuste. Il y a quand même une justice en enfer, c'est-à-dire que personne ne vivra la plénitude de la présence de Dieu en enfer, mais le niveau des regrets, justement, de ce qu'a été notre vie, du mal qu'on aura pu connaître, peut-être infligera une souffrance d'autant plus grande. Hein. On récolte ce qu'on a semé. Et en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne sera jamais accusé par Dieu de quelque chose qu'on n'a jamais fait, ou de quelque chose dont on n'était pas responsable. Ça me paraît évident.
Mais quand tu vois l'épître de Jacques, avec tout ce qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire, quand on dit celui qui voit le bien
Oui.
et qu'il ne le fait pas, on est tous coupables à la limite de l'enfer tous les jours. Mais si on est croyant, théoriquement, on est sauvé. Donc je vois.
On est pardonné, oui, mais tout à fait.
Ça me fait un peu peur quand même, ce
Alors, c'est
truc-là.
clair que par défaut, depuis la chute, tous les êtres humains sont condamnés. On est sous la colère de Dieu. Alors là, il y aurait quantité de versets qui le disent. Et que ce qui n'est pas normal, c'est la grâce. Hein. Parce que Dieu décide de faire grâce, mais dans notre état d'homme pécheur révolté contre Dieu par nature, on est sous la colère de Dieu et on devrait mériter la juste condamnation de Dieu. Mais, et parce que c'est comme ça que c'est présenté dans la Bible, hein, il y a ce fameux mais, hein, mais Dieu fait grâce. Hein, le salaire du péché, c'est la mort, mais hein, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Et on comprend mieux le mot sauvé.
Et on est sauvé.
On le comprend mieux donc, comme ça, que c'était grave et qu'on est sauvé.
Oui.
Parce que ce mot sauvé, il y en a qui ne comprennent pas. Même un curé
Oui.
m'a une fois dit, je suis sauvé, mais je ne sais pas de quoi. Peut-être de moi-même, ça peut
Ouais, alors des fois on dit qu'avant la bonne nouvelle, il y a des fois aussi malheureusement une mauvaise nouvelle à comprendre aussi. Parce que oui, si on n'a pas conscience de quoi on est sauvé, ça n'a pas de sens de dire qu'on est sauvé. Et c'est sauvé de la condamnation, de la juste condamnation de Dieu et son côté terrible. Alors, ce qui est difficile à accepter et peut-être même à comprendre hein, dans la doctrine des peines éternelles, c'est justement le caractère éternel du châtiment. Le fait que Dieu soit juste et punisse le mal, ça, c'est pas difficile à comprendre et à accepter. C'est normal. Par contre, le fait que la punition soit éternelle, hein, et on va voir du coup un certain nombre de passages. Est-ce que la doctrine d'une condamnation éternelle est biblique. Il me semble que oui. C'est pas, il n'y a pas forcément énormément de passages, mais vous allez voir, on va en lire au moins 6 ou 7 qui contiennent cette dimension du caractère éternel de la punition. Et quand on parle de ça, de la punition éternelle aussi, des fois on trouve dans certains ouvrages cette image. On dit que le péché, c'est quelque chose, c'est une offense envers Dieu, à Dieu. Et comme Dieu, il est l'être suprême d'une valeur infinie, alors cela justifie le fait que la punition soit éternelle. L'illustration, c'est si je gifle maintenant quelqu'un dans la rue. Bon, ben, il peut porter plainte et puis je vais avoir une amende. Si je gifle un policier, alors c'est
Ça se passe mal.
outrage, hein, je crois, outrage à agent et on peut aller en garde à vue. Si on gifle maintenant le roi du Maroc, alors pas le président Macron parce que. Mais le roi du Maroc, alors je crois que c'est dans la loi, on est puni de mort. Alors, si on gifle Dieu, qui est encore d'une valeur supérieure, évidemment, on sera mis à l'écart de la plénitude de sa présence pour l'éternité. Et c'est ce que la Bible appelle le feu, ou les ténèbres. Et cet argument fait appel à la grandeur infinie de Dieu. Alors, il faut se méfier de cette image. Je pense qu'elle est valable, cette image que je viens de vous donner avec la gifle. Il faut s'en méfier, parce que la base pour que cet argument fonctionne, il faut parler de la grandeur infinie de Dieu. Voilà. Mais cette grandeur infinie de Dieu fait dire à d'autres, cette même doctrine fait dire à d'autres que finalement, le péché ne serait pas si grave. Dieu est tellement grand, qu'est-ce que ça fait que des hommes, des êtres humains s'entretuent, Dieu étant tellement au-dessus de l'univers qui peut... voilà, donc l'argument de la grandeur infinie de Dieu, on peut l'utiliser dans les deux sens. Donc je me méfie toujours quand on fait jouer ce genre d'argument, mais l'illustration de la gifle, je pense, peut tout de même aider à expliquer un petit peu. Alors, il y a voici les textes bibliques donc, qui parlent d'un châtiment éternel. On a Daniel. Alors, dans l'Ancien Testament, on n'a pas grand-chose, mais on a un verset. Daniel 12, verset 2. Donc, à la fin du livre de Daniel, « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. » On a cet adjectif éternel. Dans le Nouveau Testament, on a plusieurs références. Matthieu 3, verset 12, hein, il est question du feu, hein, cette image du feu, encore une fois, qui ne s'éteint pas. Matthieu 25, là on va aussi prendre le temps de le lire, versets 41 à 46. Matthieu 25, versets 41 à 46. Ensuite, on l'a déjà lu en partie, hein, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi ?» Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. » Et Marc 9, alors là je fais remarquer quand même dans ce texte, et notamment ce dernier verset, « Ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. » On a là, dans la structure même de la phrase, un parallélisme. Hein. Soit une peine éternelle, soit une vie éternelle. Et donc si on conteste le caractère éternel de la peine, eh bien, on devrait contester le caractère éternel de la vie éternelle, hein, puisque c'est mis en parallèle dans la même phrase. On ne peut pas dire d'un côté la vie éternelle est vraiment la vie éternelle et la peine éternelle ne serait finalement pas si éternelle que ça. Voilà. Ce ne serait pas très très logique. Là, voilà, la structure de la phrase veut qu'on interprète dans ce sens. Et on a Marc, chapitre 9, aussi. Donc on est beaucoup dans les évangiles, hein, comme je vous disais, hein, c'est Jésus qui parle le plus de l'enfer, dans toute la Bible. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. En effet, tout homme sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Encore un texte qui contient plusieurs images. S'ajoute encore ici l'image du ver qui ne meurt pas. Alors, certains ont dit de ce passage que c'était, on avait là une hyperbole, donc une exagération didactique, c'est-à-dire pour enseigner quelque chose, Jésus va exagérer ce qu'il dit. Et effectivement, on ne peut pas le nier dans ce passage que Jésus exagère, puisque il dit si ta main te pousse à agir, coupe-la, si ton pied te pousse à agir, voilà, ou arrache ton œil, etc. Donc il y a évidemment, Jésus utilise ce procédé de l'hyperbole. Et donc ça fait dire à certains que l'aspect éternel de la peine serait aussi, ferait partie aussi de cette exagération pour attirer notre attention sur la gravité du péché. Mais ce qu'on peut répondre à ça, c'est justement le verset qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire qu'il y a, non, il y a un parallèle entre la vie éternelle et la peine éternelle. Et donc, non, là, pour le caractère éternel, il n'y a pas d'hyperbole. Même si Jésus, avant, utilise effectivement des hyperboles didactiques. On a quelqu'un, un jeune comme ça sur Internet, qui s'appelle David Vincent, sur sa chaîne YouTube Didascalé, qui essaye d'avancer cet argument pour justement évacuer le caractère éternel des peines. Non, là, il s'agit simplement d'une exagération à but pédagogique. Dans ce passage-là, le mot enfer, en fait, c'est la géhenne. Dans certaines traductions, d'ailleurs, c'était peut-être, dans votre traduction, c'est peut-être écrit la géhenne. La géhenne, ça désigne un ravin du côté sud de Jérusalem. C'est dans ce lieu, c'est la vallée de Rinnom, hein, Géhenne, Gérinnom, la vallée de Rinnom. C'est dans ce lieu que des idolâtres avaient fait brûler leurs enfants. Et au jour de Jésus, ce lieu était devenu un dépôt de détritus pour Jérusalem, l'espèce de décharge publique de la ville de Jérusalem, à l'air libre, hein, complètement à l'air libre. L'endroit sentait mauvais, grouillait de ver, et le ver ne mourait jamais, effectivement, parce qu'il y avait toujours de nouveaux déchets à manger. Et ils y mettaient aussi le feu, les ordures brûlaient en permanence. Alors, j'ai pas su pourquoi les ordures brûlaient, c'était probablement pour un gain de place.
Et pour nettoyer.
Je pense plus pour un gain de place, parce que je pense pas qu'à l'époque de Jésus, ils avaient conscience des petits microbes désinfectés par la chaleur, etc. En tout cas, ça avait aussi pour effet d'éviter la prolifération de certaines maladies. Est-ce qu'ils le faisaient consciemment ou est-ce que c'était pour gagner de la place ? J'ai pas vraiment trouvé. Alors, certains disent, là, Jésus nous parle, là aussi, encore une fois, le ver qui ne meurt pas, le feu qui ne s'éteint pas, ce ne serait pas littéral. Il fait allusion à cet endroit où, effectivement, le ver ne meurt pas, c'est-à-dire que les vers mouraient, mais il y en avait toujours d'autres, quoi. Et le feu ne s'éteignait jamais aussi, puisqu'il consumait toujours de nouveaux détritus. Alors, très probablement que... Effectivement, Jésus se sert du mot géhenne pour renvoyer à ça, mais si nous lisons le prophète Ésaïe, on s'aperçoit que ce n'est pas que ça, puisque en Ésaïe 66, verset 24, on peut lire « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. En effet, leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas et ils seront pour chacun un objet d'horreur. » Et c'est un passage voilà, tout à la fin du livre d'Ésaïe, hein, livre d'Ésaïe qui se finit par des promesses de salut magnifiques, mais on a tout à la fin quelques versets de nouveau de jugement. Et là qui renvoie probablement aussi au jugement aussi éternel. Et donc quand Jésus parle du ver qui ne meurt pas et d'une feu qui ne s'éteint pas, il ne fait pas que allusion à la GN de son époque, mais très probablement il a en tête aussi ce texte d'Ésaïe. Et comme ça correspondait très bien, on peut appeler ce lieu-là l'AGN. Mais même ce mot-là, l'AGN, c'est évident que Jésus ne voulait pas parler de cet endroit au sud de Jérusalem de façon littérale. Le jugement dernier ne se passera pas à cet endroit-là de façon littérale. On a également des textes dans 2 Thessaloniciens 1, verset 9, qui nous parlent d'une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Donc là, on a une idée de distance avec Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est complètement absent, puisque Dieu est omniprésent. Il n'y a pas un centimètre carré de sa création sur lequel il n'est pas souverain. Mais il y a plusieurs degrés de la présence de Dieu. Il y a présence de Dieu toute sa plénitude de vie, de joie communiquée. Et il y a la présence de Dieu dans sa souveraineté du jugement. Donc être loin de la face du Seigneur, c'est être loin de la face du Seigneur. Mais c'est quand même le Seigneur qui juge. Dieu n'est pas absent complètement de l'enfer. Il est souverain dans sa justice. Et Hébreux 6, verset 2, nous parle aussi d'un jugement éternel et Apocalypse 20, 10, de tourment éternel. Donc on a cet adjectif, ou alors des fois au siècle des siècles, ou pour toujours. Donc cette idée d'éternité dans le châtiment est biblique. Alors souvent, le mot éternel, c'est le mot en grec aionios. Ça peut vouloir dire, ce mot ne signifie pas seulement éternel. Il peut vouloir dire des siècles, il peut vouloir dire une période donnée, une époque, un âge ou une ère. Certaines Bibles en anglais, dont la Young's Literal Version, ne traduisent pas Aionios par éternel, mais par age during, donc qui dure le temps d'une époque, une période donnée. Mais si on veut exprimer en grec la notion d'éternité, on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre mot pour exprimer l'éternité que ce mot-là. Donc c'est un argument quand même assez faible. Alors les universalistes vont lire ces textes dans ce sens faible. Voilà, c'est un jugement, un châtiment qui dure pour un temps, éventuellement des siècles. Mais alors dans ce cas-là, encore une fois, il devrait admettre que la vie éternelle n'est pas non plus éternelle. Voilà. Certains aussi, dont Henri Blocher, font remarquer que quand Jésus dit de Judas, il aurait mieux valu pour lui ne pas naître. Ce verset-là n'aurait pas de sens sans la doctrine des peines éternelles. Si finalement Judas, à la fin, jouirait pendant l'éternité de la présence de Dieu, ce verset n'aurait pas beaucoup de sens. Voilà, en tout cas, ce que la Bible dit de l'enfer. On a fait presque le tour des textes, ce n'était pas exhaustif non plus, mais les textes majeurs qui nous parlent de l'enfer, on les a déjà tous cités ce soir. Tout ce qu'on rajoute à ce qu'on a lu ce soir dans notre idée de l'enfer ou dans notre description de l'enfer, c'est qu'une construction et c'est qu'une façon de voir les choses ou qu'une hypothèse qui ne s'appuie pas sur la Bible. Et si on regarde autour de nous l'image que les gens ont de l'enfer, on s'aperçoit qu'ils ajoutent beaucoup de choses qui ne sont pas dites dans la Bible. On a souvent une fausse image. Par exemple, depuis des siècles, les illustrations de l'enfer nous montrent le diable et les démons qui torturent eux-mêmes, les damnés dans une flamme ou avec une fourche. Eh bien, ça, c'est absolument pas ce que nous dit l'enseignement biblique. Il ne nous dit pas « vous serez en présence du diable qui vous torturera pour l'éternité ». On ne trouve aucun verset qui nous dit ça. Satan, au contraire, et les démons seront eux aussi jugés. Donc, et quand on est jugé par Dieu, on ne fait pas les malins. À la fin des temps, d'ailleurs, c'est même un ange. Satan est mis dans les temps de feu par un ange même. C'est même pas Dieu lui-même qui intervient. Il donne un ordre à un ange, l'ange met Satan dans les temps de feu. Il est jugé. C'est d'ailleurs un argument assez fort pour dire que la doctrine des peines éternelles n'est pas une doctrine diabolique, comme certains l'ont dit, parce que le diable n'inventerait pas une doctrine où il se condamnerait lui-même à la fin, ainsi que tous ses démons. À aucun moment nous voyons dans la Bible que l'enfer sera le royaume du diable. C'est ce que j'ai essayé de dire en disant que Dieu est souverain en enfer. Après, c'est compliqué à comprendre. Hein. C'est un lieu de jugement, de punition sur lequel Dieu est souverain. Le péché sera jugé. Le péché ne se perpétuera plus. La réalité du péché, de la révolte contre Dieu, ne sera plus que du passé. Henri Blocher écrit que le scandale de la désobéissance cessera. On ne pourra plus faire d'affront à Dieu, plus offenser Dieu. Ce sera un autre temps, celui de sa patience, de son jugement, contrairement à aujourd'hui, le temps de la patience de Dieu. On voit bien qu'on est capable, en tant qu'être humain, des pires horreurs. Et des fois même, on voudrait que Dieu fasse cesser ces horreurs. Et il ne le fait pas. Et parce qu'on est dans ce temps où Dieu laisse une certaine liberté, dans ce temps de la patience. Mais quand on sera dans le temps du jugement, ben, ce sera plus possible de perpétuer cette révolte contre Dieu. Alors, dans les publicités, notamment, on a une très mauvaise image qui est véhiculée de l'enfer. Hein. On voit le diable, les démons et les damnés, des fois même se réjouir de perpétuer le mal. Mais ce ne sera pas du tout ça. L'enfer ne sera pas le royaume du mal. La victoire de Dieu est totale. Et on sera dans le temps du jugement, plus dans le temps de la patience de Dieu. Et parce que pendant ce temps de la patience de Dieu, ben, le mal sévit, malgré la sainteté et la justice de Dieu. Parce que les comptes seront réglés à la fin. Alors, la question qu'on peut se poser, peut-être, s'il n'y a plus de péché, d'où pourrait venir la souffrance? Et on l'a déjà un petit peu évoqué. Et c'est Henri Blocher qui propose que la souffrance viendra des regrets et des remords. Les images bibliques du feu, du ver, ainsi que des pleurs, peuvent se comprendre dans ce sens. Après, on a aussi les grincements de dents. Alors, les grincements de dents, ça, c'est pas vraiment de la tristesse, ni du regret, ni du remords, c'est plutôt de la colère. Hein, on a Job 16, verset 9, Actes 7, verset 54 aussi. Hein, une question, je pense que c'est dans le passage avec Étienne. Hein, ils grinçaient des dents, ils étaient en colère. Alors là, ce ne sera pas une colère non plus, ce sera une juste colère contre soi-même. Ce n'est pas une colère contre Dieu, puisqu'il n'y aura plus de révolte contre Dieu. Tout genou pliera, même devant Jésus, et, Seigneur. Donc c'est que cette colère ne sera pas contre la justice de Dieu, mais peut-être une juste colère contre soi-même, contre ses propres actions. Ça rejoint du coup quand même un petit peu le regret, le remords. Quand on regrette quelque chose, on s'en veut, on peut même être en colère contre soi. Et l'existence donc de la gradation dans les peines pourrait donc aussi s'expliquer, puisque les remords sont proportionnels à la gravité des fautes commises. On récolte ce qu'on a semé, mais dans cet état qui est définitif, les remords à aucun moment ne peuvent conduire à la repentance. On est dans un état sans avenir. Il n'y a pas d'avenir. Alors que quand on est dans le temps de la patience de Dieu, et du côté de la vie éternelle, c'est la vie. Et là, c'est la mort éternelle. Donc des remords sans avenir, des remords éternels. Henri Blocher parle de fixité dans le châtiment. C'est la seconde mort, la mort éternelle. Et il prend cette image de la rigidité cadavérique pour illustrer l'état de condamnation éternelle, un état figé dans les regrets et les remords. Et enfin, là aussi je le dis en tremblement, hein, plusieurs auteurs, dont John Piper, qui focalise toute sa théologie sur la notion de gloire de Dieu, souligne que les jugements de Dieu glorifie d'une certaine façon aussi Dieu. Ésaïe 5, verset 16, que je vous lis là. L'Éternel, le Maître de l'univers, sera élevé par le jugement. Le Dieu saint sera reconnu comme tel par la justice. Donc il y a une certaine glorification de Dieu, même dans le jugement. Je pense que Dieu se glorifie davantage dans sa grâce et dans le salut, mais même dans le jugement, Dieu est quand même glorifié. Ézéchiel, chapitre 38, verset 16, qui dit « Tu attaqueras mon peuple, Israël, pareil à un nuage prêt à couvrir le pays. Cela se produira dans l'avenir. Je te ferai venir contre mon pays, afin que les nations me reconnaissent, quand je manifesterai ma sainteté à travers toi, sous leurs yeux, Gog. » Une parole de Dieu à ce peuple Gog. « Dans son châtiment, comme Gog, le condamné, montrera la sainteté aussi de Dieu, révélera sa justice, sa sainteté. » Henri Blocher, d'ailleurs, est, à ma connaissance, le seul théologien évangélique francophone contemporain à avoir publié sur ce sujet-là, hein, des peines éternelles. Il y en a eu par le passé, par exemple, vous connaissez peut-être aussi René Pache, traité ce sujet. Il y a un certain John Blanchard, mais je ne sais pas s'il est français. Je pense que c'est une traduction, mais c'est moins... dans son style, il est assez différent. Henri Blocher écrit « Servir à la glorification de Dieu, n'est-ce pas la fin principale de la créature ? Le condamné remis d'accord avec l'ordre de Dieu atteindra d'une certaine manière sa destination essentielle. » Et on est un petit peu obligé d'en arriver aussi à cette conclusion-là. Il n'y a aucune défaite de Dieu dans sa justice. Dieu, lui, ne regrettera pas. Ce sont les condamnés qui regretteront. Dieu ne regrettera pas de ne pas les avoir sauvés, par exemple. Donc, conclusion. On a de bons appuis bibliques pour confesser la doctrine des peines éternelles. Je pense que voilà, ce qu'on a lu, les textes qu'on a lus ce soir ne permettent pas de dire que cette doctrine n'est pas biblique. Ceux qui affirment qu'il n'y a pas d'appui biblique, je le dis, se trompent. Il y a un appui biblique à cette doctrine. Elle n'est sans doute pas parfaite, parce qu'elle va poser des questions auxquelles on n'aura aucune réponse, des questions humainement insolubles. Et c'est là qu'on doit se rappeler qu'en tant que créature, on ignore des choses, et beaucoup de choses. Tous les théologiens évangéliques ne sont pas d'accord non plus avec cette version d'Henri Blocher, que j'ai citée ici ou là. Par exemple, Donald Carson, théologien évangélique aux États-Unis, interroge Henri Blocher lors d'un débat, dont j'ai un petit résumé là dans l'ouvrage The Gauging of God. On a là un peu la teneur de ce débat. Il dit : mais s'il n'y a plus de péché en enfer, comme Henri Blocher le disait, alors. Cela signifie-t-il que la loi de Dieu sera complètement respectée ? Y aura-t-il donc un amour parfait pour Dieu et pour son prochain ? Donc voilà, j'ouvre avec ça pour dire que c'est pas évident, même parmi les grands théologiens évangéliques actuels sur la surface de la Terre, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Lui, Donald Carson, il pense que le péché, d'une certaine façon, se perpétuera. C'est-à-dire que l'enfer sera comme un petit peu la vie d'aujourd'hui. Les gens pourront continuer à faire le mal et donc subiront la justice de Dieu et les effets négatifs, et les conséquences négatives de leurs actes, etc. C'est pour dire que le débat est vraiment complexe. Cette doctrine nous dépasse. Je pense que la position la plus sage, c'est de se contenter des fois d'affirmer simplement que Dieu est juste, parce que ça, tous les chrétiens sont d'accord, et que Dieu est amour aussi. Certains font une distinction quand on dit que Dieu est amour, on ne dit pas que l'amour est Dieu. Ce n'est pas la même chose. Et reconnaître qu'on ne peut pas tout comprendre. Les choses cachées sont à Dieu, et c'est bien comme ça. D'ailleurs, la foi consiste à faire confiance à Dieu qui sait mieux que nous ce qui est juste et bon. Et ce n'est pas une confiance qui est aveugle, ni irrationnelle, ni fanatique, parce que Dieu nous a largement prouvé sa sagesse et son amour en Jésus-Christ.